Religion du monde, Geneviève Delru.
Bonjour à tous. En ce jour de Pâques, fête pour les chrétiens de la résurrection de Jésus après sa mort sur la croix, nous nous pencherons sur la figure de Jésus, sur la question de sa résurrection, l'événement fondateur du christianisme, et puis sur ce Jésus que chaque époque s'approprie, comme en témoigne le récent livre de Reza Aslan, best-seller aux États-Unis, où Jésus se présente sous les traits d'un zélote, appelant à une transformation radicale de la société juive de son temps. Plus classique et pédagogique, nous avons retenu dans cette période de Pâques, féconde en ouvrages sur l'inspirateur du christianisme, trois livres. Le premier, publié chez l'éditeur First, et sa collection bien connue s'intitule « Jésus pour les nuls ». Le second porte sur la résurrection, abordée d'un point de vue philosophique. Et le troisième, « Jésus au XXIe siècle », appelle à une relecture radicale du Nouveau Testament. Et l'on ouvre avec Mathieu Richel, bibliste, exégète, professeur d'Ancien Testament à l'Université libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine. Bref, le co-auteur très sérieux avec Éric Denimal du Jésus pour les nuls. Alors, à quelles difficultés se confronte-t-on lorsque l'on veut parler de Jésus et écrire sur Jésus? Mathieu Richel.
La difficulté, c'est qu'il s'agit d'une figure à la fois bien et mal connue. Tout le monde a entendu un petit peu parler de Jésus, on a des fragments de connaissances à son sujet, mais finalement on a tellement tendance à se l'approprier, à en faire un Jésus politique, comme nous verrons peut-être tout à l'heure, ou un Jésus rebelle, un Jésus au contraire sage, presque bouddhiste, qu'on ne sait plus tellement à quoi s'en tenir. Donc l'idée est de partir de zéro, de réapprendre tranquillement les bases à son sujet, mais aussi de savoir s'orienter entre ce qui relève de la foi, ce que l'on croit à son sujet, et ce que les historiens estiment validé au regard des critères historiques habituels. Donc c'est faire la part des choses, et apprendre des bases qui soient sûres, et non pas, disons, apocryphes à son sujet.
Alors précisément, il y a le livre de Reza Aslan, Le Zélote, la vie et l'époque de Jésus, aux éditions Arène, qui a fait un peu la une de certains journaux. Ce livre insiste beaucoup sur un Jésus qui serait révolutionnaire. Ça serait plus le Jésus doux, venu annoncer des messages d'amour et de paix, mais au contraire, un vrai révolutionnaire qui veut bousculer son époque. Comment vous vous inscrivez justement par rapport à ces publications?
Je trouve ça assez formidable, parce que cela veut dire que le défi que Jésus a lancé aux religieux, aux croyants de son époque, de son temps. Ce défi est encore lancé aujourd'hui à tous ceux qui cherchent à le comprendre, et il me semble que encore aujourd'hui, il surprend. Je veux dire par là que on s'attend à un Jésus qui parle du royaume de Dieu, qui voudrait peut-être venir détrôner les Romains, puisque le pays de Jésus était un pays occupé par les Romains. Pensez à Astérix et transposez-le en Israël aujourd'hui, vous verrez bien le climat de l'époque.
Insurrectionnel.
Voilà, exactement, avec un bouillonnement, des révoltes, voilà. Et beaucoup voudraient que Jésus soit un révolutionnaire, un rebelle, quelqu'un qui veut chasser les Romains. Et certains l'ont fait. Certains, au premier siècle de notre ère, se sont fait passer pour le Messie, le roi tant attendu par les Juifs, qui renverserait les Romains. Jésus n'est justement pas entré dans ce jeu-là, il a au contraire proposé un message spirituel, une révolution mais spirituelle. Et on a tellement de mal à accepter cela, on passe tellement à côté de cela, qu'aujourd'hui encore, on tente de récupérer Jésus et de le tirer vers la politique. Alors on a des tentatives qui sont brillantes sur le plan journalistique, sur le plan de la vulgarisation, comme le livre que vous venez de mentionner, mais qui ne tiennent pas au regard des historiens.
Précisément, Mathieu Richel, revenons à l'histoire. Dans quel contexte précis, et là je pense notamment au contexte religieux, le message de Jésus va apparaître?
L'époque où vit Jésus, c'est celle d'une religion qui se vit à l'ombre du pouvoir romain, mais qui se vit tout de même avec une piété centrée autour du temple, centrée localement autour des synagogues, où l'on tente d'adorer Dieu, de le prier. Quand il s'agit du temple, il y a des pèlerinages, des fêtes, des sacrifices, c'est effervescent. Jérusalem se remplit de monde à l'époque de la Pâque, par exemple, précisément. Et Jésus, lui, arrive dans une époque où il y a de grandes attentes. On espère qu'un jour, Dieu, le Dieu d'Israël, va libérer le peuple. Mais les gens voudraient qu'il les libère du pouvoir romain, de l'oppression extérieure que vivent les Juifs. Ça, c'est très intéressant, mais Jésus va prendre tout le monde de court en proposant au contraire de libérer les gens de leurs problèmes intérieurs, de leur spiritualité. Et c'est aussi pour ça, je crois, qu'il parle encore de nos jours à de nombreuses personnes. Il répond à une quête spirituelle. C'est dans ce contexte-là qu'on peut replacer Jésus, celui d'une attente, et il est venu remplir certaines attentes, mais pas toutes.
L'attente du Messie a commencé par là.
Voilà, exactement. Mais quel Messie ?
Mais quel Messie ? Effectivement, alors vous le rappeliez, pas le Messie qui va libérer le peuple juif des Romains, mais qui va peut-être le libérer de tensions intérieures extrêmement fortes. Au sein du judaïsme, il y a des tensions très fortes.
Il y a des tensions très fortes, des débats théologiques assez importants, mais tout se ramène finalement à l'idée d'être en paix avec Dieu, de lui obéir, de lui être fidèle. Et c'est sur cette thématique que Jésus va intervenir. Il va pousser les religieux de son temps à aller jusqu'au bout de leurs principes. Une bonne partie des choses que Jésus annonce, son regard d'amour, sa volonté de paix, de prendre l'autre en ligne de compte quand il s'agit d'obéir aux commandements apparemment les plus stricts, tout cela, les pharisiens le connaissaient sans doute, d'après les sources les plus anciennes, sources rabbiniques qu'on a à ce sujet. Mais Jésus pousse jusqu'au bout. Il est radical dans cette logique d'amour de l'autre. Il va donc pousser chacun dans ses retranchements. Et ça ne va pas toujours très bien se passer.
Alors, quel outil pédagogique proposez-vous justement à ceux qui ne connaissent pas Jésus ? Est-ce que c'est d'abord la lecture des évangiles ? Comment connaître mieux Jésus ?
Nous avons fait en sorte d'offrir un package complet, si je puis dire, de partir de zéro, expliquer aux gens, voilà, bienvenue dans le monde de Jésus, voilà l'horizon politique, voilà le peuple dans lequel il s'inscrit, d'où vient ce peuple, quelles sont ses coutumes, quels sont ses principes religieux, quelle est la situation à son époque. Et ce n'est que dans un second temps que nous présentons Jésus d'après les évangiles, sa vie, son enseignement. Et nous pouvons basculer vers ce que disent les historiens à son sujet. Quelles sont les sources historiques qu'il présente, qui nous renseignent à son sujet, qu'est-ce qu'on sait des apocryphes, qu'est-ce qu'on sait de ce que les historiens romains disent à son sujet. Il y a quelques éléments là-dessus.
L'historien juif aussi, Flavius Josèphe.
Et puis il y a l'historien juif Flavius Josèphe qui est très important. Qu'est-ce que disent les historiens aujourd'hui finalement ? Et puis enfin, nous avons voulu parler de Jésus tel qu'on le connaît à travers les siècles qui ont suivi son existence. Le phénomène Jésus ne s'arrête pas à sa mort, ou à sa résurrection si vous voulez, ça va beaucoup plus loin. Nous avons des siècles ensuite de résonance de ce personnage dans l'histoire. Il y a donc, si vous voulez, l'après-coup, l'après-Jésus, et c'est notre quatrième partie. Que faut-il savoir? Comment l'Église a compris Jésus? Comment est-ce qu'on est passé d'un charpentier à un homme qui est considéré comme Dieu lui-même incarné? Et puis comment est-ce que Jésus aussi a inspiré les artistes de toutes les époques? Que ce soit pour la peinture, la littérature, le cinéma, et puis même la publicité.
Effectivement, un panorama extrêmement complet. Alors, revenons à cette partie concernant Pâques, la mort de Jésus, oui, sa résurrection. Et d'ailleurs, vous êtes assez, je veux dire, assez audacieux, puisque ce chapitre s'intitule « Le jour a marqué d'une croix ». C'est un peu gonflé quand même, non, Mathieu ?
Oui, alors si je voulais Mathieu me Michel. Défausser, je dirais que c'est mon co-auteur Éric Denimal que je tiens à mentionner, qui a proposé ce titre-là. Mais pourquoi pas ? Écoutez, je crois que tout est bon en pédagogie pour frapper les esprits, intéresser les personnes et revisiter ces choses-là. Je pense qu'un des drames au sujet de Jésus-Christ, c'est qu'on croit le connaître par de vieilles images d'Épinal, des vieilles représentations. Pourquoi pas ne redécouvrir le personnage, sa mort, avec des yeux frais?
Et là,
ce que nous
vous
avons
jouez,
essayé de faire.
Tout à fait. Et là, vous jouez effectivement totalement le drame, par
c'est
étape.
C'est un drame. C'est un drame qui se déroule en plusieurs étapes. Alors, on ne propose pas une chronologie heure par heure des derniers événements de la vie de Jésus. Mais enfin, c'est un fantastique drame qui se met en place avec des acteurs qui sont extrêmement vivants, extrêmement humains dans leur comportement.
Il y a la trahison.
Pensez à Pierre, exactement, qui trahit Jésus. Judas, qui l'a trahi d'une autre manière en le livrant carrément à ses ennemis. Ce sont vraiment des heures, presque des jours fatidiques. On a pu en faire des passions musicales, on a pu en faire des opéras, et ça se comprend bien, je crois.
Yeah.
Alors, vous posez cette question, effectivement. Est-ce que c'est un meurtre politique ? Là encore, c'est très audacieux. Est-ce que c'est un meurtre politique, comme Martin Luther King, par exemple, ou Abraham Lincoln ? Est-ce que c'est un meurtre politique parce qu'il dérangeait ?
Alors, qu'il ait dérangé, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Après, il y a une quantité de thèses qui sont affirmées au sujet de la raison des causes de sa mort. Il peut y en avoir eu plusieurs qui se sont combinées. Dans cette partie du livre, nous ne faisons que résumer ce que disent les évangiles. Et ce que disent les évangiles, c'est qu'il y a une cause avant tout religieuse derrière sa mort, mais qui est passée par la politique. Puisque les Juifs ne pouvaient pas mettre à mort Jésus-Christ. C'est très important de le dire, puisqu'on a souvent utilisé cette idée que Jésus était tué par les Juifs, ça n'est pas vrai.
Oui, ce qui avait des drames effectivement dans l'histoire, oui.
Exactement, ça a alimenté un certain antisémitisme, et aujourd'hui encore, je crois, malheureusement. Donc c'est quelqu'un qui a dérangé au point de vue religieux, mais à l'époque, le religieux ne pouvait pas être totalement disjoint de la politique, puisque les religieux responsables juifs étaient tout de même sous surveillance, si je puis dire, du pouvoir romain.
Sous la coupe, oui.
Voilà, donc d'après les évangiles, il y a une demande faite à Pilate, qui était, disons, le gouverneur régional de la part du pouvoir romain, d'exécuter Jésus. Voilà comment les évangiles présentent la chose. Donc c'est complexe. On ne peut pas réduire ça à une seule cause, en fait.
Alors, la résurrection, bien sûr. Traité de façon, là aussi, encore très, très, très dans le style de la collection. La résurrection, avec toutes les interrogations que ça suppose, est-ce qu'il faut y croire ? Est-ce que sur des hallucinations, vous posez vraiment les questions de façon très claire ?
Voilà, alors, nous en parlons dans la partie qui concerne ce que disent les évangiles, les récits proposés par ces textes, et puis ensuite, que peuvent en penser les historiens ? Et j'avoue que c'est peut-être une des parties les plus surprenantes du livre, parce que, en faisant mes recherches pour ce sujet-là, j'ai constaté que même aujourd'hui, les exégètes qui se penchent plus sérieusement sur le sujet, en historien, strictement parlé, et pas en tant que croyant, n'ont pas encore d'hypothèse alternative à proposer qui soit suffisamment crédible à l'idée d'une résurrection. Vous parlez d'hallucinations, ça ne fonctionne pas vraiment, parce que une ou deux personnes qui aient des hallucinations, qui voient Jésus et qui imaginent qu'il est ressuscité, on pourrait le comprendre. Mais des dizaines, des centaines de personnes qui vivent la même hallucination, une hallucination collective, là, ça devient improbable au plan sociologique, au plan psychologique.
Donc on laisse la place au mystère ?
Oui, je pense. Alors nous ne concluons pas, nous ne prescrivons pas ce que le lecteur doit penser.
Oui, c'est pas votre rôle, oui.
Non, ça n'est pas notre rôle. Nous expliquons différentes théories, pourquoi aucune n'est vraiment satisfaisante. Et à partir de là, nous avouons que chaque personne, même les historiens, qui veulent quand même prendre position sur le sujet, le font à partir de leurs présupposés. Certains n'ont pas de problème, pour des raisons philosophiques, à admettre que Dieu puisse ressusciter des êtres humains. Et à ce moment-là, ça ne leur cause pas de problème, ça leur paraît la conclusion naturelle. D'autres s'y refuseront, et à ce moment-là, vont essayer de trouver, de se rabattre sur des explications malgré tout.
Je vous remercie, Mathieu Richel. Je rappelle que vous êtes le co-auteur avec Éric Denimal du Jésus pour les nuls, chez First Edition. Mais vous restez avec nous dans ce studio avec notre deuxième invité, François Gachou, qui vient de publier aux éditions du CERF un essai philosophique sur la résurrection. François Gachou, bonjour et merci d'être avec nous. Je précise que vous êtes professeur de philosophie et de littérature française en Suisse romande. Alors, il n'est pas question de polémique dans votre livre pour départager ceux qui croient à la résurrection et ceux qui n'y croient pas. Vous abordez cet événement fondateur du christianisme avec les outils de la philosophie, mais aussi avec l'Ancien Testament, où la vie, eh bien, c'est le souffle du Dieu créateur. Mais malgré tout, comment aborder la question de la résurrection sous l'angle philosophique ? François Gachou.
Écoutez, je crois qu'il faudrait d'abord peut-être mettre en place deux évidences. La résurrection est un phénomène historique reconnu, qui était si fortement reconnu dès le 1er siècle que une nouvelle religion qui venait de la tradition juive, ne l'oublions pas, a été reconnue, construite, crue sur la base de ce phénomène inouï, il faut bien le dire, puisque personne n'est jamais revenu de la mort. Et voilà que Jésus apparaît au groupe de ces gens qui ont vécu avec lui durant 3 ans et qu'ils connaissent bien, ne l'oublions pas. Et cette présence est si forte que finalement, ils vont avoir de quoi fonder leur espérance et leur foi sur cet événement qui en lui-même est mystérieux parce que il n'y a pas eu de témoin direct de la résurrection du Christ. C'est une fois vivant, ressuscité des morts, que Jésus leur apparaît. Alors, je pense que la phrase de Paul qui dit « Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vide » est une phrase qui résume bien le caractère inouï de donner sa foi, sa confiance dans cet événement fondateur. Et puis d'un autre côté, alors la deuxième chose qui me paraît évidente, c'est que ces disciples qui étaient des braves gens, tout simples, des pêcheurs du bord du lac de Tibériade, qui avaient suivi Jésus pendant 3 ans tout de même. C'est long, cette prédication de 3 ans, avant qu'il soit arrêté, mis en croix, et puis ressuscité. Eh bien, ils n'ont pas voulu y croire. Il y a dans l'évangile de Luc un épisode assez impressionnant, qui est au chapitre 24, où l'on voit que les disciples sont réunis, Jésus leur apparaît, et le texte dit qu'ils étaient ébahis parce qu'ils croyaient voir un esprit. Et Jésus, qui est présent, n'a pas d'autre manière de se faire reconnaître qu'en leur disant « Mais voyez mes mains et mes pieds, c'est moi. Un esprit n'a ni os ni chair, mais touchez, voyez, c'est bien moi. » Donc d'un côté, il atteste par la visibilité de son corps présent parmi eux, que c'est bien lui. Et puis d'un autre côté, dit le texte, malgré cela, il ne pouvait pas y croire. Il demeurait ébahi. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il qu'il y ait un pareil paradoxe entre la visibilité du corps, ce corps qui a bien passé par la croix, et puis ce souffle de vie parfaitement réel mais invisible qui fait que on est sur deux phénomènes qui paraissent au fond peu conciliables. Alors, je crois qu'il faudrait peut-être, pour essayer d'entrer dans cette perspective que j'ai appelée, en effet, philosophique et plus précisément phénoménologique, d'abord dire aux auditeurs qu'il ne faut pas être impressionné par ce vocabulaire, parce que la démarche, finalement, est assez simple. Qu'est-ce qu'il y a derrière la conception de l'homme quand on ouvre la Bible dès la première page de la Genèse? Il n'y a pas de démonstration que Dieu existe. Il y a la manifestation que Dieu, cet être infini, éternel, invisible, crée le monde parce qu'il l'a voulu bon et qu'il veut faire l'homme à son image. Autrement dit, Dieu habite le cœur de l'homme. Et ce qu'il y a d'intéressant par rapport à l'héritage grec, c'est que dans l'héritage occidental, nous avons toujours une conception double, une dualité. D'un côté, le corps qui est mortel. De l'autre côté, l'âme qui, depuis la tradition de Platon, est jugée immortelle. Alors que dans la Bible, pas du tout. Il n'y a pas de terme hébreu pour dire le corps. Le mot qu'on rencontre toujours, c'est la chair. Or, la chair, elle est toujours habitée par un souffle de vie. Et donc, dans la Bible, on peut pas séparer le souffle de vie du Dieu créateur de ce corps dans lequel ce souffle agit et qui s'appelle la chair.
Alors, nous poursuivrons avec vous, François Gachou, sur la résurrection, l'explication philosophique, j'allais dire, de la résurrection après le flash. Restez à l'écoute de RFI.